africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons d'éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, vous allez entrer avec nous dans un autre univers que l'école dite classique. Celui peut-être de l'école du bonheur, ou en tout cas tout est dans le plaisir d'apprendre, avec cette démarche de retrouver finalement la curiosité naturelle de l'enfant pour la découverte du monde, le débat en classe, dans une relation davantage d'égalité avec le maître. Nous évoquerons même d'ailleurs en fin d'émission des crèches pour les bébés qui fonctionnent sur la découverte du monde à l'écoute précoce des langues étrangères. Alors tout cela, pour quels résultats? Nous allons en parler bien sûr avec nos invités. Peter Gamble, journaliste, écrivain britannique, bonjour.
Bonjour.
Vous avez découvert il y a quelques années avec horreur le système scolaire français, d'abord en tant que parent d'élève, hein, c'est bien ça.
Hein. Oui, c'est ça, oui.
Vos enfants n'étaient pas heureux dans les écoles françaises. À peu près. Et puis ensuite, en tant que journaliste, avec un livre très remarqué à l'époque, On n'achève pas les écoliers, en tout cas vous avez bien achevé le système français. Comme vous êtes anglais, évidemment, à l'époque, tout le monde a dit, c'est normal, il veut casser la France. Aujourd'hui, vous récidivez avec une enquête sur ces écoles pas comme les autres, à la rencontre des dissidents de l'éducation. Marie-Éloi, vous êtes aussi dans le studio de RFI, certains auditeurs peut-être vont vous reconnaître. Vous étiez journaliste à RFI à l'École des Savoirs. Bonjour Marie.
Bonjour Emmanuel.
Alors vous n'avez jamais travaillé dans l'enseignement, vous n'êtes pas une professionnelle de l'enseignement. Néanmoins, vous avez fondé en tant que maman, avec une autre maman, une autre mère d'élèves, il y a 4 ans, une école Montessori dans un petit village du Morbihan, l'Armor Baden. En Bretagne, et c'est la 5e rentrée scolaire cette année.
Voilà, on a 55 enfants, 9 enseignants, et mes enfants, c'est pour eux que j'ai créé cette école. Et...
Il n'y avait pas l'école qui convenait à vos enfants, donc vous avez dit
c'est
je vais
un
la
peu
créer.
De votre faute, Emmanuel, parce que j'ai fait des reportages pour vous sur l'éducation pendant 7 ans, et du coup,
à
j'ai
peu
vu
près
ce
dans
qui
le
se
monde
passait
entier.
Dans le monde entier, et je me suis dit c'est ça que je veux pour mes enfants, une école Montessori.
Ça veut dire que n'importe quel parent peut créer une école comme ça avec des pédagogies différentes?
Alors, nous reçoit des tonnes de demandes de parents de toute la France qui veulent faire comme nous, mais après c'est très compliqué. Créer une école, c'est vraiment beaucoup de cheveux blancs.
Ouais. Et alors je rassure les auditeurs, vous n'en avez pas encore, mais en tout cas c'est très compliqué sur le plan administratif, sur le plan pédagogique, parce qu'il y a toujours l'éducation nationale quand même qui exerce un contrôle, une forme de contrôle. Raphaël Nemot, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes la représentante du groupe African Leadership en France et en Afrique francophone. C'est une institution qui cherche à former de futurs jeunes leaders africains qui sont repérés dans les lycées du continent, y compris en Afrique francophone. Hein. Vous pensez que l'école classique en Afrique ou ailleurs d'ailleurs, bien souvent ne favorise pas l'éclosion du talent personnel pour devenir un leader?
Ah oui, complètement. Alors en Afrique, bien sûr, mais la France n'y échappe pas. Voilà, oui.
Quant à vous les voisins et les voisines, n'attendez pas la fin de l'émission surtout pour témoigner ou questionner nos invités en direct sur ces écoles différentes. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Christophe à Marseille. Comment apprendre dans le plaisir et sans la contrainte? Moi, je ne connais pas cela. Les études ont toujours été pénibles pour moi. Ça, je pense qu'on pourrait en trouver pas mal, hein, des gens qui ont souffert à l'école. Landing, qui est à Kolda, dans le sud du Sénégal. On peut et on doit enseigner avec moins de contraintes. D'autant plus qu'en Afrique, on dit « l'enfant ne connaît pas Dieu, mais il connaît le bâton ». Vous connaissez cet adage, hein, mesdames. Et puis, il y a les récalcitrants. Christophe, à Dakar. Moi, je suis enseignante depuis une vingtaine d'années. Je ne crois pas à ces méthodes. Les nouvelles pédagogies ne doivent pas changer nos excellentes méthodes de base présentes dans l'éducation depuis de nombreuses années. Appelez-nous, on a envie d'en débattre avec vous, que vous soyez parents d'élèves, enseignants ou jeunes, heureux dans le système ou malheureux. 33 1 84 22 71 71. Justement, Facebook, puisque c'est par là, c'est comme ça que vous postez vos messages en général et Twitter. Si Facebook faisait son entrée réellement dans les salles de classe pour réviser le bac français. Dans quelques établissements de l'éducation nationale, eh bien, certains profs ont décidé de faire de Facebook un outil sur lequel transposer un roman au programme pour le bac. Comme dans cette classe de première L, littérature d'un lycée de la région parisienne, Charlie Dupiot a assisté à l'un de ses cours de français innovant. Au programme ce matin-là, Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, un classique sur Facebook.
Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur les personnages de Voyage au bout de la nuit en les faisant vivre sur Facebook. Donc, vous allez devoir trouver des photos pour votre personnage, des citations préférées, des tas de choses comme ça qui vont permettre de lui donner une épaisseur. Donc, allumez les ordinateurs, je vous distribue vos comptes et puis les petites instructions détaillées.
Alors d'habitude, Facebook, c'est quelque chose que vous utilisez plutôt en dehors de l'école. Qu'est-ce que ça vous fait de l'utiliser dans l'enceinte de l'établissement ?
C'est étonnant.
Au lieu de tout le temps noter une leçon, là, ça permet de nous exprimer un peu plus, quoi. Mais des fois, il y a des petits débordements par-ci par-là. Genre, quelqu'un qui va pas trop respecter le sujet et commencer à écrire de façon un peu familière. Donc du coup, ce qui ne colle pas vraiment au livre.
Il y a un S en fait. Alors attention aux petites fautes d'orthographe. Hein.
Où ça ?
Ici par exemple, si je l'avais rencontré plus tôt.
Ah, il y a un E. Françoise Cahen, vous êtes professeure de lettres modernes au lycée Maximilien Perret à Alfortville en région parisienne. Pourquoi utiliser les réseaux sociaux dans vos cours ?
C'est un support intéressant parce que les jeunes s'en servent beaucoup naturellement et écrivent énormément. Donc pourquoi ne pas se saisir de ce support-là pour y transposer la culture scolaire ? Par exemple, avec mes élèves, à plusieurs reprises, j'ai essayé la twissertation, donc une dissertation un petit peu en puzzle avec des tweets.
En fait, chaque élève tweetait, c'est-à-dire envoyait un message de moins de 140 signes pour participer à une dissertation collective, en fait, c'est ça.
Parce que la dissertation est un exercice qui leur fait peur, et en leur montrant que finalement c'était une phrase après l'autre, il y a moins d'élèves qui restent dans leur coin à rien faire. Là, enfin, il ne faut pas tomber dans la caricature, on ne fait pas Twitter et Facebook tous les jours. Préparer tout le bac de cette manière, ce serait quand même un peu compliqué. C'est vrai qu'il faut accepter pendant un moment, pendant une heure ou deux, de perdre un peu de son pouvoir de professeur rayonnant sur la classe, tel un souverain. L'innovation, c'est toujours accepter de prendre un risque.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Peter Gamble, qu'est-ce que vous en pensez ? Abandonner le pouvoir quand on est enseignant, c'est ce qu'il y a de plus difficile à votre avis, vous qui avez rencontré énormément d'enseignants pour votre enquête sur les écoles différentes ?
Est-ce que c'est vraiment abandonner le pouvoir ? Non, je crois pas. C'est plutôt aborder donc le sujet différemment. Donc c'est moi magistral, c'est moi, je suis là pour remplir les têtes vides. C'est beaucoup plus, on joue, on essaie ensemble, on va créer, on va construire quelque chose ensemble et enfin on va apprendre ensemble.
Ouais, alors vous avez rencontré énormément d'enseignants dissidents pour votre enquête qui veulent et qui croient en un enseignement différent. Est-ce qu'ils ont un constat commun finalement ?
Oui, effectivement, il y a un peu de tout, il faut le dire. Donc il y a des méthodes et des méthodes, et chacun essaie faire donc différemment. Mais en même temps, il y a surtout une relation avec l'élève qui est extrêmement importante, qui est différent là parce que c'est moins l'autorité et l'élève qui est passif, c'est beaucoup plus axé sur l'élève qui est actif. Et l'enseignant qui est là plutôt comme coach que voilà.
Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment un point commun qu'on retrouve dans toutes les écoles différentes où vous êtes allé, que ce soit des écoles Montessori, des écoles Freinet, des écoles Steiner. On va pas toutes les citer, mais à chaque fois, c'est de voir des élèves qui sont relativement autonomes, hein, et qui, déjà, la disposition de la classe ne ressemble pas aux classes que nous, on a connues dans notre enfance, en général, non?
Oui, ça dépend.
Le bureau de l'enseignant n'est pas, en général, est un peu en retrait, hein, il est pas face à la classe, hein.
Oui, alors ça dépend. C'est très net dans les écoles Montessori où on est extrêmement axé sur la créativité, mais aussi sur l'autonomie des jeunes, des enfants, qu'ils font, on fait ce qu'on veut faire. Ce sont les élèves qui choisissent. C'est pas l'enseignant qui dit maintenant tu vas faire ça. C'est plutôt l'élève qui dit oh, moi j'aimerais faire ça, et on le fait. Et en même temps, ce qui est vraiment étonnant dans les écoles Montessori, c'est que tout le monde fait comme on veut. Et c'est pas tout la même chose. C'est chacun fait son truc.
Oui. Alors apprendre dans le plaisir, tout le monde traduit sans contrainte, c'est pas possible. Mais c'est pas forcément qu'il n'y a pas de contrainte. Hein.
Alors il faut dire une chose qui est en France, mais aussi dans d'autres pays, il y a toujours une notion de pour bien apprendre, il faut souffrir. Et là, on sait depuis 25 ans, dans les études de la psychologie et les neurosciences, que c'est totalement faux. Effectivement, c'est le bonheur, le bien-être est un outil formidable pour l'apprentissage. Un apprentissage réussi, ça déclenche des cercles vertueux dans le cerveau des jeunes. Donc la difficulté d'être enseignant aujourd'hui, c'est comment bien motiver les jeunes pour bien apprendre et pour prendre le goût et le plaisir à l'apprentissage.
Alors les méthodes pédagogiques qui font probablement le moins débat aujourd'hui, ce sont les méthodes tirées de cette femme médecin italienne, Maria Montessori.
Première femme médecin italienne, donc déjà on dit quel caractère.
Voilà, Marie-Éloi, vous qui avez monté une école aux méthodes Montessori dans un petit village de Bretagne, quand on entre dans une salle de classe à pédagogie Montessori, ça veut dire quoi? Ça ressemble à quoi?
Bah voilà, c'est ça, ça ressemble à une ruche. Ça ressemble à une ruche. C'est-à-dire que moi, mes enfants, ils arrivent, ils prennent le matériel adapté parce que tout est basé sur du matériel concret, scientifiquement étudié. Ils prennent leur matériel, par exemple, ma fille peut arriver puis être à son niveau en français. À côté d'elle, il peut y avoir un autre enfant qui fait du français, mais à un autre niveau. Et assis par terre sur un tapis, un autre enfant, mais en mathématiques, et un autre en histoire. Et ils vont aussi loin qu'ils veulent. Après, c'est tout dans le respect. Il y a beaucoup de respect dans les écoles Montessori, donc c'est en chaussons. On chuchote.
Pourquoi
dans la classe parce qu'il faut pas de bruit, on veut respect, la concentration est essentielle dans les écoles Montessori. Et puis on a un lien avec l'enseignant, on n'a pas peur de l'enseignant, il est là pour nous éveiller le plus possible. Les enfants ont naturellement soif d'apprendre, envie d'apprendre, et si on casse pas en eux cette étincelle, ça peut donner des choses merveilleuses. Et moi, c'est ce que je voulais vraiment pour mes enfants. Donc quand on arrive dans cette école, il y a un cadre très strict. Montessori, c'est un cadre très strict, mais à l'intérieur, c'est la liberté dans le respect de l'autre. Donc il y a une gestion des conflits qui est importante. Et si par exemple on voit quelque chose qui traîne par terre, on se lève, on prend le balai, on nettoie. Et
puis on passe son temps à ranger dans toutes ces écoles, j'ai remarqué. Peter Gamble, vous décrivez beaucoup ça aussi, non?
Oui, voilà, c'est important.
On fait le ménage.
Oui, mais
il y a des profs qui vont dire bon, tout ça n'a rien à voir avec l'apprentissage intellectuel.
Non, mais c'est pas du tout vrai, parce qu'on structure sa journée et on structure aussi ses pensées. Donc c'est vraiment lié.
Que fait l'enseignant dans l'histoire si ces enfants-là sont tellement autonomes? D'ailleurs, quand on arrive dans ces salles de classe, parfois on le voit même pas, l'enseignant, tellement il est parfois assis par terre avec un enfant, il ne travaille qu'avec un seul enfant pendant une demi-heure.
Alors justement, dans ces écoles, elles sont souvent aussi multiniveaux. Par exemple, de 3 à 6 ans ou de 6 à 12 ans, ensemble, les grands aident les petits. Et le but du jeu, c'est ça, c'est que l'enseignant, il soit le plus en retrait possible à la fin. Ça veut dire que l'école, elle fonctionne, que les enfants apprennent en autonomie.
Ouais, apprendre en autonomie, quand même, ça peut laisser dubitatif, Peter Gamble, non? C'est l'enseignant qui sait, quand même.
Alors, il faut, non.
Qui connaît l'étape de multiplication.
Il faut dire que c'est peut-être pas adapté pour tous les enfants. Ça, c'est sûr. Il y a des enfants qui ont du mal dans cette liberté de bien donc régler et réussir. Mais ceci dit, si vous allez dans la Silicon Valley aux États-Unis et vous allez demander donc les grandes têtes là-bas, qu'est-ce que vous avez fait comme école, ils vont vous dire peut-être Stanford ou Harvard, mais une majorité dans les entreprises les plus innovantes, surtout Google, c'est Montessori. Donc au moment
Larry Page et Sergey Brin, c'est ça, les fondateurs de Google.
Ils
sont passés par des écoles Montessori tous les deux.
Et on a posé la question, est-ce que c'est le fait que vos parents sont des profs à l'université qui a vraiment formé votre esprit? Et tous les deux ont dit non, c'est parce que nous avons fait une école Montessori qui nous a donné surtout le plaisir, l'appétit Et surtout la curiosité d'aller chercher, d'aller trouver.
C'est vrai que vous citez aussi Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Jimmy Wales, celui qui a lancé Wikipédia. C'est vrai que ça m'a ébranlé quand même. Oui.
Ça forme au monde de demain, en fait. Dans le système classique, on est assez passif parce qu'on est tous avec un cahier, on écoute le professeur et on prend des notes tous en même temps, peu importe notre âge, notre niveau, etc. Dans le système Montessori, c'est du sur-mesure. C'est au moment où l'enfant est prêt, on lui présente le matériel. Donc, il est naturellement acteur de ses apprentissages dès l'âge de 3 ans. Et en fait, par exemple, tous les enfants n'apprennent pas à parler et à marcher en même temps, au même âge. Il y en a que ça dépend des enfants. Mais lire et écrire, c'est pareil. L'histoire, la géographie, c'est pareil. Et il faut leur proposer au moment où ils sont prêts. Et ça, c'est Maria Montessori.
Alors, depuis des années, l'éducation nationale en France dit tout ça n'est pas possible à grande échelle. Nous, on est là pour former des bataillons, des cohortes démographiques entières d'élèves. Ça n'est pas possible sur des grands volumes d'élèves. Une question, d'ailleurs, d'un auditeur. Razil, qui est à Lomé au Togo, et qui dit, est-ce que ce type de programme est envisageable en Afrique? Lui, il pense que non. Il nous dit, il y a plein de problèmes qui en découleraient. Il faut un éducateur spécialisé, des matériaux didactiques appropriés, la volonté politique, bien sûr. Dans vos salles de classe d'école Montessori, c'est quoi? Il y a du matériel très luxueux d'apprentissage?
Le matériel coûte malheureusement cher parce que, oui, il est en bois, il est magnifique, etc. Mais en Inde, il y a plein d'écoles Montessori, par exemple.
Non, mais là, vos lettres, par exemple, on apprend à lire en touchant. Alors, des lettres très rugueuses.
Tout est basé sur le concret.
C'est pas du Macintosh, ça.
Non, en fait, c'est comme l'enfant qui met tout, le bébé qui met tout dans la bouche pour qu'ensuite ça aille au cerveau, la forme, la texture, etc. Montessori, c'est pareil. L'écriture, ce sont des lettres rugueuses où on écrit dans le sable. La géographie, ce sont des globes rugueux ou des cartes, ce sont des puzzles. Quand vous faites tomber une fois le puzzle de l'Afrique, je peux vous assurer que vous savez exactement replacer tous les pays parce que ça prend une plombe à faire. Mmh. Et en mathématiques, vous n'écrivez pas, par exemple, 1000 sur un cahier. Vous avez un cube avec 1000 perles. Donc, vous visualisez ce qu'est 1000. Donc tout est concret.
Oui, mais c'est pas forcément du matériel extrêmement coûteux à fabriquer.
Non, alors il y a quand même un système un peu bizarre qui est donc le matériel officiel Montessori est cher, mais on pourrait le fabriquer pas cher. Effectivement, Madame Montessori elle-même, c'était visé pour un public vraiment pas huppé. C'est un grand public.
Au départ, des enfants des classes très populaires les quartiers pauvres de Rome.
Ça a commencé en 1907, effectivement, dans une banlieue de Rome, absolument pas chic. Donc les écoles, même en France, la première école Montessori en 1913, c'était une école publique. Mm. C'est vraiment qu'en France qu'on a cette idée que les Montessori sont les écoles privées. Mm. Si vous allez en Inde, si vous allez aux États-Unis, en Suède, vous allez trouver des écoles qui sont publiques, mais aussi Montessori.
Et moi, ça me rend dingue, parce que les écoles en France, les écoles Montessori, sont souvent réservées à une élite. Or, ça forme au monde de demain. Mm. Et dans les autres pays, non, elles sont souvent public.
Alors justement, vous qui nous écoutez, Raphaël Nemo, et que vous occupez plutôt de former les leaders en Afrique de demain, African Leadership Academy, les jeunes qui arrivent dans cette académie en classe de première, terminale, pour suivre un enseignement tellement différent de ce qu'ils suivent d'habitude sur le continent africain.
Ouais, je rêverais qu'ils arrivent des écoles Montessori, effectivement, parce que je pense qu'on est très proche en termes de philosophie, d'approche à l'apprentissage, mais notamment le fait que chez vous, si j'ai bien compris, l'enfant est au cœur du système. Chez nous, c'est la même chose. Les élèves sont au centre du système d'apprentissage et pas le professeur. Voilà. Donc, par exemple, nous, on a différents programmes, au niveau secondaire et au niveau tertiaire. On demande.
Tertiaire, c'est plutôt l'enseignement supérieur.
Voilà, enseignement supérieur et enseignement secondaire. On demande, en fait, aux élèves de choisir une mission. Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour contribuer, à améliorer leur continent et leur pays? On leur demande pas de choisir une matière.
Ah oui.
Voilà.
Ah oui, c'est ça.
Exactement. Et, à côté de ça, tout à l'heure, on évoquait la notion d'autonomie. Là-dessus, on est très proche également. Alors, c'est vrai que pour nous, c'est peut-être plus facile parce qu'on a affaire à des adolescents. Ils ont à partir de 16 ans. Donc, c'est pas des enfants tout jeunes comme chez vous.
Mais comment on les sort? Comment on déconstruit le moule dans lequel ils sont passés pendant 15 ans en général, ou enfin 10 ans?
Oui, alors ça demande une petite période d'adaptation, mais c'est quand même un programme qui dure 2 ans au niveau secondaire et 3 à 4 ans au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, ils ont le temps quand même de s'acclimater. C'est une immersion totale. Mmh. Donc, ce sont des internats. On a un campus en Afrique du Sud, un campus à l'île Maurice. On va ouvrir au Kenya et au Rwanda dans les prochains mois.
Et puis
tout le monde est interne,
ensuite.
Tout le monde vit sur place.
On va en reparler, bien sûr. Hein. Ouais. Comment on fait naître le leadership, c'est aussi la créativité, l'adaptation au monde de demain, vous le disiez aussi, Marie-Éloi. Vous restez avec nous, Peter Gamble également. Les voisins, les voisines, vous pouvez bien sûr participer aux discussions au 33 1 84 22 71 71. Apprendre différemment.
Ici l'Europe.
Et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, comme chaque vendredi, nous débattons sur l'éducation. Et aujourd'hui, peut-on enseigner de façon vraiment différente? Ça fait des années que certains profs croient à une autre façon d'enseigner. On en discute avec vous, Peter Gamble. Vous publiez une enquête, vous êtes un journaliste britannique, et vous publiez une enquête sur les écoles différentes, ces écoles pas comme les autres, à la rencontre des dissidents de l'éducation en France, hein, et qui se heurtent au mur de l'éducation nationale, ou plutôt aux anxiétés de l'éducation nationale. Marie-Éloi, vous êtes en tant qu'ex-journaliste, mère d'élèves, vous avez créé une école Montessori avec une autre maman dans un village en Bretagne. Et aujourd'hui, de nombreux parents vous contactent pour, à leur tour, créer des écoles Montessori. On en a un peu parlé de cette pédagogie assez différente. Il n'y a pas que les écoles Montessori, il y a plein d'autres méthodes. Mais en tout cas, elles ont ce point commun, vous nous le disiez, Peter Gamble, que globalement, les enfants apprennent dans le plaisir, avec une forme d'autonomie, d'émerveillement, et sont globalement heureux dans ces écoles. Raphaël Nemo, vous êtes représentant du groupe African Leadership en France et en Afrique francophone, et vous nous expliquiez en première partie d'émission comment faire naître le talent de leader pour de jeunes Africains qui viennent sur des campus, pour le moment encore à Djobourg, hein, et puis
à l'île Maurice.
Hein. Mais ce sont des jeunes qui viennent de toute l'Afrique, qui sont sélectionnés.
Ah oui, voilà, c'est des campus panafricains, voilà. Donc, tout le continent.
Et là aussi, qui retrouve du coup une autre relation avec les enseignants.
Exactement.
Forcément. On est en ligne avec un auditeur qui nous appelle au 33 1 84 22 71 71. Amadou est à Bambé, à 120 km de Dakar. Bonjour Amadou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes un développeur web. Vous enseignez, vous avez créé un centre informatique, et vous enseignez l'informatique à des jeunes. Ça commence à quoi? 12, 13, 14, 15 ans, c'est ça? Et vous utilisez, vous avez été obligé de vous poser la question de comment former à l'informatique de manière un peu innovante?
Absolument. Mmh. Alors là, à Bambéi, à 120 km à l'est de Dakar, alors on a mis sur pied ce que l'on appelle le CUE, le Centre de Recherche Informatique WorldLink. Mmh. Alors c'est un centre de recherche qui a été mis sur pied par un professeur de mathématiques, le professeur Ousmane Diouf. Mmh. Alors, l'objectif maintenant de ce centre, c'est de former des étudiants. On les appelle des étudiants de toutes les couches de la société.
Mais dites-nous exactement en quoi, bon, parce que former à l'informatique, ça n'oblige personne à avoir des méthodes innovantes. Alors, en quoi vous êtes aperçu qu'avec des méthodes un peu différentes, ça marchait beaucoup mieux? Donnez-nous un ou deux exemples, Amadou, rapidement.
On a développé 200 cours vidéo, des tutoriels vidéo. Parce que nous formons en bureautique informatique avec 4 modules de cours. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint et Microsoft Access. Et là, ce sont des cours vidéo maintenant que nous offrons aux étudiants. Ils amènent cela au niveau de leur maison, avec leur ordinateur. Lorsqu'ils doivent faire une didacticienne, ils invoquent la vidéo correspondante à cette didacticienne.
Oui.
Et là, lorsqu'ils suivent la vidéo ou les vidéos, ils conçoivent les didacticiens. Et on a listé quelque chose comme 73 corps de métier. Mmh. À chaque fois maintenant que l'étudiant ou l'apprenant veut faire un travail sur un domaine bien spécialisé, il invoque la vidéo et il l'applique.
Oui. Voilà. Je suis pas sûre d'avoir bien compris, hein, mais bon, en gros, avec la vidéo, vous permettez à ce que certaines images se gravent plus rapidement aussi, hein, c'est ça, pour mieux maîtriser des techniques informatiques.
Voilà, en fait, les vidéos, ce sont des conceptions infographiques qui se fixent à l'image de l'élève, par exemple. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple. Mm. L'élève qui est au niveau de l'école primaire, qui doit apprendre, par exemple, ces leçons de grammaire. On conçoit, par exemple, des vidéos spécialement basées sur l'infographie
Oui, oui, c'est la technique du tutoriel en fait. Hein. On peut apprendre à réparer sa voiture de cette façon-là, on voit faire et ensuite tu regardes faire et ensuite tu sauras faire. Hein. J'ai bien compris. Merci beaucoup, Amadou. Peter Gamble, vous souhaitez réagir?
Oui, alors donc la technologie c'est un outil formidable pour les enseignants qui savent s'en servir, qui n'est pas toujours le cas. Effectivement, il y a des études qui montrent que simplement mettre des ordinateurs dans les salles de classe n'est pas très productif, il faut avoir vraiment les enseignants motivés. Mais par exemple, la notion d'une classe inversée est très intéressante. Donc, c'est-à-dire, au lieu de s'asseoir dans la salle de classe et apprendre là, et après à la maison, travailler sur ce qu'on a appris, on fait en amont à l'école, à la maison, donc on regarde une vidéo ou on travaille sur le internet.
L'élève prépare sa leçon avant même qu'elle ne soit donnée par l'enseignant.
Et ça peut très bien. Et donc ça change complètement la nature de la leçon dans la salle de classe après, parce qu'on discute ce qu'on a appris.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, on se retrouve avec du débat en classe. Dans les écoles Montessori, Marie-Éloi...
Est-ce qu'il y a du débat? Énormément.
Énormément de débats.
Oui, notamment sur la gestion des conflits, de tout ce qui se passe au sein de la petite communauté enfantine, pour que chacun puisse donner son point de vue, apprendre à
argumenter.
Voilà, ça c'est très important. C'est très important la gestion des conflits. On ne l'apprend pas dans le système classique.
Mais la culture de l'oralité, de la façon de s'exprimer, c'est un vrai problème hein, dans l'enseignement à la française, qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur le continent africain francophone, Raphaël Nemo. Quand ces jeunes arrivent là sur les campus pour devenir des leaders en Afrique du Sud et qu'ils viennent par exemple d'Afrique francophone, est-ce qu'il y a cette forme de, même s'ils sont très déterminés, très talentueux, cette forme de timidité pour prendre la parole en public, pour défendre ses idées, puisque vous nous disiez en première partie, on leur assigne non pas une matière à travailler, mais une mission. Quelle est la mission sur laquelle tu vas travailler?
Tout à fait. Donc, effectivement, il y a un gros décalage. On sent bien que les jeunes qui ont été formés dans le système francophone sont beaucoup plus à l'aise à l'écrit, n'ont pas l'habitude de prendre la parole. C'est pour ça qu'on a un cours qui s'appelle Writing and Rhetorics, où on leur apprend aussi, pas seulement à mettre les idées par écrit, mais aussi à s'exprimer, à communiquer en ayant un impact sur l'audience. Donc, c'est vrai que, surtout pour les élèves francophones chez nous, tout l'enseignement est en anglais. Donc, il y a aussi cette difficulté, cette barrière à l'oral au départ, mais qui très vite est dépassée. Et ces jeunes, comme tous les jeunes, parce qu'ils sont jeunes, arrivent très vite à s'adapter et à rentrer dans ce nouveau mode de fonctionnement qui leur correspond vraiment en fait beaucoup mieux pour exploiter leur potentiel.
Comment vous sélectionnez ces jeunes qui vont faire partie de cette académie du leadership en Afrique? Évidemment, il faut qu'ils aient envie, qu'ils postulent, qu'ils disent j'ai l'âme d'un leader, d'un dirigeant de demain.
Tout à fait. Il faut vraiment qu'ils aient très envie parce que c'est un processus très compétitif. On n'a que 3% de taux d'admission. On a généralement autour de 4000 candidatures, on peut prendre que 100 élèves chaque année pour l'académie. Alors écoutez, on regarde le potentiel de leader, donc c'est-à-dire la capacité à prendre des initiatives, à faire preuve de courage, de persévérance. Ça peut être par exemple un jeune qui est délégué de sa classe. Ce type de profil, leur esprit d'entrepreneuriat, est-ce qu'ils savent identifier un besoin et puis mettre en place une solution pour y répondre, que ça soit à l'école, dans leur quartier, dans leur famille, évidemment leurs résultats scolaires, mais surtout leur envie d'apprendre. On cherche pas forcément les premiers de la classe. Et puis, tout ce qu'on appelle community service, donc c'est-à-dire leur engagement dans leur communauté. Est-ce qu'ils font partie d'associations?
Au service des autres, c'est ça.
Au service des autres.
Oui. Voilà. Il y a un message d'un auditeur, Étienne, qui est à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo, qui nous dit « Le monde actuel nous impose des contraintes. Donc, si l'enfant apprend dans le plaisir, on ne lui apprend pas vraiment la vie, la réalité du monde dans lequel il vit. Son intégration dans la vie professionnelle sera alors beaucoup trop difficile. » Qu'en pensez-vous?
Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on peut tout à fait apprendre dans le plaisir, le partage et se développer en tant qu'être humain, en fait, chez nous. C'est-à-dire qu'on ne parle pas que des connaissances qu'on va enseigner en classe. On parle vraiment de développer des compétences qu'on appelle les soft skills. Donc, la façon de raisonner avec un esprit critique, la communication, l'empathie, toutes ces valeurs-là qui vont, en fait, aider chaque élève à ensuite pouvoir s'adapter plus facilement dans le monde de demain, qui effectivement est très difficile. Mais le contenu académique est trop vite dépassé aujourd'hui. Donc c'est pour ça que voilà, on ne focalise pas notre enseignement sur un contenu théorique académique, mais plutôt sur le développement de compétences et de savoir-être.
Ce qui est important, c'est de savoir s'adapter. Et ces écoles différentes forme les enfants justement à cette faculté d'adaptation.
Dans un monde qui bouge
tout le
temps,
c'est ça.
Dans un
monde qui bouge, demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Dans 10 ans, dans 15 ans, les entreprises ressembleront certainement plus à celles qu'elles sont aujourd'hui. Le monde changera énormément. On n'a aucune idée. Donc, il faut pouvoir s'adapter, être créatif, être autonome. Et c'est ce qu'apprennent ces
écoles. Même si on n'a pas appris le goût de l'effort.
Oh, mais il faut absolument pas confondre la notion donc du bonheur de l'apprentissage et l'idée qu'il n'y a pas de rigueur. C'est pas du tout vrai.
Oui.
Effectivement, c'est le contraire.
Plaisir donc, et effort, ça peut tout à fait
les écoles, les écoles qui sont un peu différentes, non seulement Montessori, mais Freinet, et d'autres, elles ont toutes un système qui est même très structuré. Simplement, c'est différent. C'est structuré différemment.
Les écoles Freinet, vous décrivez des écoles où quand même, ça parlotte beaucoup quand même dans la salle de classe. Hein.
Oui,
c'est cool.
Freinet, c'est surtout là, on met l'accent sur l'oral. Freinet, c'était aussi.
Ah oui, mais enfin, vous savez bien que les élèves souvent préfèrent parler que d'écrire.
Ah non, mais
parce qu'ils ont peur de faire des fautes d'orthographe. Est-ce qu'on est très rigoureux finalement? Je me mets à la place d'enseignants qui écoutent là les discussions. Est-ce qu'on est aussi rigoureux que cela sur la grammaire française, sur l'orthographe, sur la précision de la langue?
Moi, vous êtes dans la pensée française parfaite. Donc effectivement, ce qui est intéressant dans le système français, c'est qu'on participe beaucoup moins que dans d'autres pays et surtout pas à l'oral. Et dans les écoles, surtout Freinet, qui était un chercheur français il y a presque un siècle aussi, qui a fait donc son école. Et là, on met l'accent sur donc l'oral. Et il y a les séances qu'on appelle les quoi de neuf. Donc chaque jour, il y a des enfants qui disent voici ce que j'ai fait. Et on utilise l'expérience personnelle pour apprendre. Donc on discute une visite quelque part pour faire un point sur l'histoire, sur la géographie. Donc c'est pas n'importe quoi.
Alors évidemment depuis le début on vous écoute, on a l'impression que vous faites un peu le procès de la pensée française de l'éducation. Mais il faut savoir que vous avez été à la rencontre de ces dissidents de l'éducation en France, hein, qui sont évidemment en général l'éducation nationale leur met des bâtons dans les roues, beaucoup de bâtons dans les roues. D'ailleurs c'est pour ça que on se retrouve avec des écoles privées hors contrat avec l'éducation nationale. Mais aux États-Unis il y a énormément d'écoles Montessori, de toutes les pédagogies qui se sont montées, et à tel point d'ailleurs qu'il y a aussi beaucoup de familles qui retirent leurs enfants du système classique américain pour faire l'école à la maison. Ça prouve bien que même l'école à l'américaine, qui est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus cool, etc., ne convient plus aux familles. Est-ce que finalement, on n'est pas dans un monde où tout le monde veut créer son école sur mesure pour son enfant, de la même façon qu'on va au supermarché acheter le produit qui vous convient?
C'est un peu exagéré ça, mais,
oui.
mais ce qui est vrai, c'est aujourd'hui, on constate que l'école classique partout dans le monde, qui date du 19e siècle, n'est plus du tout adaptée au monde moderne. Et donc tous les parents cherchent autre chose. Et surtout en France, il y a un mouvement, une demande très très forte. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'écoles différentes entre guillemets.
Plusieurs dizaines de milliers d'enfants en France aujourd'hui apprennent
des
écoles différentes.
Là on est à peu près 600-700 000 enfants qui vont dans d'autres écoles.
Sur 12 millions d'élèves. Hein.
Et voilà, c'est pas énorme. Mais aux États-Unis, par exemple, le homeschooling, donc l'instruction en famille, c'est déjà 2 millions. C'est à peu près 4% de. Et simplement, il faut comprendre que avec la technologie moderne, on peut faire énormément de choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20
maintenant,
ans.
De toute façon, tous les cours de Harvard, etc. sont accessibles sur Internet, sont en ligne. Marie-Éloi ?
Oui, je voulais juste revenir sur la notion d'effort. Il y a énormément de persévérance dans une école Montessori parce qu'il n'y a pas de notion d'échec. Ça veut dire que l'enfant travaille avec son matériel jusqu'à ce qu'il réussisse, ça s'auto-corrige. Donc il recommence, et à un moment donné, quand il a réussi, il passe à l'exercice suivant. Donc on ne passe pas à l'exercice suivant quand on a 12 sur 20 ou 14 sur 20, on passe quand on a 20 sur 20. Donc les apprentissages fondamentaux sont vraiment ancrés.
Il n'y a pas beaucoup d'évaluations,
pas
beaucoup de notes. Hein.
Pour compenser, pour vous dire qu'on passe au niveau supérieur que quand on a entièrement compris l'exercice. Donc les apprentissages sont vraiment ancrés et ça fait aussi toute la différence.
La plupart de ces écoles dites différentes ne vont pas jusqu'au baccalauréat. On a évidemment le sentiment qu'elles refusent de tomber dans les statistiques du baccalauréat parce que peut-être qu'elles auraient des très mauvais résultats.
Non, alors là, c'est pas vrai. Donc, déjà, il y a quelques écoles qui vont jusqu'à la fin. Et là, les résultats sont tout à fait acceptables et bons. Mais aussi, on constate, pas peut-être en France, mais dans d'autres pays où on peut aller jusqu'à la fin de la, donc, de sa scolarité dans d'autres systèmes, que ça marche bien. Donc, il y a des études scientifiques, par exemple, sur les écoles Montessori aux États-Unis qui montrent à quel point ça fait une différence, non seulement pour les très jeunes, mais aussi à l'âge de 15 ou 18 ans. Donc,
c'est-à-dire des enfants qui apprennent à lire, écrire très tôt.
Et ça dépend des enfants. Il y en a qui sont prêts très tôt, 4 ans et demi. Il y en a qui sont prêts plus tard, 7 ans. Ça dépend vraiment de l'enfant. On respecte son rythme.
Apprendre, découvrir le monde autrement, ça peut commencer dès la crèche aussi. Dans quelques instants, on va donner la parole à une expérience de crèche pas comme les autres. Ça sera juste après Pills for Your Ills. Your mind, get it. Free your mind, get it. You can get by trying to hit your ride or get there in half the time if you can fly. Let's go. And I believe in that. Free your mind, get it. And I believe in that. Free your mind, get it. Flipper got free, swam to the high seas. Ali and Don King took a trip to Zaire. Took it 5 years, but you shook the idea. Being scared, now you jumping off the roof without fear. Lose your eyewear, looking right square in the eye. You should not care if they come wearing suit and tie. Put us right there. Move through light years with a frame of mind to produce some more boss gears. Wait. There's a pill for your ills that they just won't get. Make a deal if you will, but it just won't stick. Close your eyes, make a wish when I hear voices. Hey, look, I'm no priest, but there ain't no peace when you free your mind, get it. Free your mind, get it. You can get by trying to hit your ride or get there in half the time if you can fly. Let's go. Nous sommes en ligne avec Claudia Caspillai, qui est fondatrice des crèches Cap Enfants, qui sont des crèches pour les entreprises et les collectivités en Île-de-France. Bonjour Claudia Caspi.
Bonjour Emmanuel.
Ces crèches où les parents, d'ailleurs je précise, payent le même prix que pour des crèches publiques, hein, parce qu'en général ensuite c'est relayé par les entreprises, etc. Mais quand on entre dans vos crèches que vous avez créées, ça ressemble à quoi par rapport à une crèche classique où on accueille les bébés pour les garder toute la journée?
Alors ça ressemble à une crèche classique, si ce n'est que nous avons en général un atrium qui est un peu comme une place du village. Et au milieu de cette place du village, il y a une hutte qui est la bulle musicale. Et l'enfant va rentrer dans cette place du village, découvrir les cubes, des activités de peinture, des activités de jeux d'imitation, comme on trouve un peu partout. Mais il va avoir aussi la possibilité de rentrer dans cette hutte qui est une forme d'igloo, de 4 mètres carrés à peu près, et il va appuyer sur des notes qui vont diffuser des sons d'animaux, des sons d'instruments, de musique, de langues, d'ambiance sonore. Et chaque mois, on va emmener les enfants dans un nouvel environnement sonore propre à un pays. Donc un mois, on va partir au Japon, ensuite on partira en Inde, on ira en Bretagne, en France. Et l'enfant va découvrir l'environnement sonore qui est avec aussi lié au visuel pour qu'il sache ce qu'il entend. Par exemple, le rugissement d'un lion, il va savoir que c'est un lion, il va le voir apparaître sur un écran. Ensuite, on enlève l'image et puis ça fait travailler l'oreille. Et on travaille aussi sur tous les autres sens, bien sûr le goût, le toucher, l'odorat. Donc l'idée, c'est de le plonger dans un environnement un peu différent.
Oui, à la fin de l'année, on a fait le tour du monde hein, chez vous, dans vos crèches, alors, hein, à peu près.
Alors, presque. Ouais.
Ouais. Et tout ça, ça marche à partir de quel âge, y compris pour un bébé de 6 mois? Vous partez du principe que d'entendre des langues étrangères, de travailler sur la plasticité de son oreille, c'est bénéfique?
Oui, parce qu'on est sur ce principe de l'oreille musicale. On sait qu'un musicien a plus de plasticité, enfin une capacité auditive supérieure à une personne qui n'est pas musicienne. Donc concrètement, il entendra plus de sons et potentiellement, il peut apprendre plus facilement les langues étrangères parce qu'il va en sentir la subtilité, les différents accents, etc. Donc, en commençant avec des bébés qui vont arriver en rampant dans la bulle Ils vont découvrir cet univers avec beaucoup de plaisir, parce qu'on n'est que sur le principe du jeu, du plaisir. Ouais. Lui, ça va lui permettre de découvrir d'autres sons et donc de garder cette plasticité que l'enfant a à cet âge-là. Et ensuite, de garder cette compétence pour apprendre plus facilement les langues étrangères plus tard, parce qu'il a une meilleure oreille.
Ouais. Et vous avez même été, vous êtes même invité, je crois, très prochainement au Japon, en Corée du Sud, pour présenter vos crèches. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, des pays qui, bon, travaillent beaucoup, mettent les enfants dans des situations de compétition scolaire dès le plus jeune âge. Je ne sais pas si c'est avec cette même optique qu'ils sont intéressés par l'apprentissage des langues étrangères à quelques mois, non ?
Ils ont une culture très forte, les Japonais, et l'idée, c'est de leur montrer aussi, bon, de leur donner des atouts pour apprendre plus facilement les langues étrangères. Et puis, il y a aussi cette notion d'ouverture sur la différence, sur la mixité, sur montrer que la différence est une richesse, et donc c'est une ouverture sur le monde. Et ça, je pense que c'est vraiment très intéressant pour la culture japonaise.
Merci beaucoup, Claudia Kespi-Yahi. Je suis désolée, la ligne téléphonique se dégrade grandement. Vous êtes fondatrice des crèches Cap Enfants, des crèches pour les entreprises et les collectivités en Île-de-France pour le moment, et qui auront vocation à s'étendre. Qu'est-ce que vous en pensez, évidemment, les adeptes de l'enseignement différent, Peter Gamble?
Quand ma fille était à l'école maternelle aux États-Unis, à Los Angeles, elle a trouvé donc un enseignant qui mettait donc du poudre de curry dans la pâte à modeler pendant la semaine de l'Inde pour donner un peu l'impression sensorielle de l'Inde. C'était super.
Donc en faisant des petites formes avec sa pâte à modeler, voilà, elle avait en même temps l'odeur du curry.
C'était simplement une façon de dire, voilà, c'est pas uniquement à regarder, mais aussi à toucher, à sentir.
Ouais, l'usage des cinq sens est primordial dans l'enseignement Montessori. Hein.
Oui, sentir, toucher. Oui, ça c'est vraiment important. Il y a des flacons avec différentes odeurs et les enfants doivent reconnaître, les mettre par paire, le toucher, les tissus, les couleurs, enfin tout est vraiment
étudié. En particulier d'ailleurs, c'est intéressant sur l'apprentissage de la lecture, hein, c'est-à-dire que le toucher des lettres permettrait au cerveau de finalement de mieux mémoriser la forme de la lettre quand les doigts les ont effleurés.
Quand ça passe par le corps, forcément, c'est beaucoup plus ancré comme apprentissage. C'est comme les bébés qui mettent tout dans la bouche, c'est vraiment ça. Ouais.
Alors, quand même, il faut poser la question, d'ailleurs un auditeur nous soulevait cette question en début d'émission, sur l'accessibilité de toutes ces nouvelles méthodes. Par exemple, aujourd'hui, les écoles Montessori, en principe, les enseignants doivent avoir une formation. Enfin, juridiquement, c'est pas obligé, d'ailleurs, Peter Gamble.
Non, en France, donc tout le monde peut ouvrir
demain,
son école.
Demain, vous pouvez ouvrir une école Montessori.
Oui, voilà. Donc c'est là, parce qu'il n'y a pas de label. Il n'y a pas de... Madame Montessori elle-même n'a pas insisté sur ça. Mais c'est un peu exceptionnel quand même, parce qu'il y a aussi l'académie, donc l'éducation nationale qui quand même contrôle tout ça.
Oui, je confirme. Nous, quand on a ouvert l'école, il y avait RG, qui sont les renseignements généraux, qui sont venus tout de suite pour voir ce que c'était comme école. Mais on peut pas faire n'importe quoi. On a le destin de nos enfants en jeu.
Donc, il y a la peur des dérives sectaires en France.
Hein, il faut vérifier, puisque n'importe qui peut ouvrir une école. C'est très facile d'ouvrir une école. Après, il faut qu'elle dure. Les écoles se cassent souvent la figure au bout d'un an ou deux. Nous, c'est notre cinquième rentrée. Donc, ça y est, on a éliminé la plupart des écueils. Mais
Par exemple,
Le choix des enseignants, structurer une école, c'est très compliqué parce qu'on a la responsabilité de l'avenir des enfants. Et puis on a tous les parents qui sont derrière, qui sont très exigeants. Ça, c'est vraiment un gros boulot.
Vous n'êtes toujours pas en contrat d'association avec l'État.
Il faut 5 ans pour pouvoir prétendre
Vous espérez l'être un jour ?
Il faut qu'on étudie la chose, quels sont les avantages, les inconvénients, et c'est ce qu'on va faire cette année.
Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, les parents d'élèves payent combien dans cette école Montessori de ce petit village en Bretagne ?
Alors, on est une des moins chères de France. Pour nous, c'était vraiment important. Ça veut dire que on va chercher de l'argent un peu partout ailleurs. On est à 250 € par mois, ce qui est conséquent. Oui. Mais les personnes qui y sont vraiment pas... Enfin, sont des personnes...
Ce qui fait pas loin de 3 000 € sur l'année, de 2 500 € sur l'année.
Oui, mais c'est 450 € en moyenne en France et 800 € à Paris.
Voilà. Et effectivement, vous confirmez, Peter Gamble, ces écoles différentes à Paris sont extrêmement coûteuses.
Oui, alors, dans le privé, oui. Mais ce qui est là, c'est ce qui est super intéressant de voir, que c'est aussi dans le public... On cherche autre chose. Pourquoi ? Parce que ça marche plus. Donc on voit la dégradation de la performance, la croissance des inégalités dans le système classique, traditionnel. Et donc même dans le système public, on est en train de chercher d'autres pistes. Et surtout dans les banlieues qui sont les plus difficiles avec les familles les plus désavantagées, où on trouve quand même les expériences les plus intéressantes.
Nous, on a des profs qui viennent mettre leurs enfants chez nous.
Oui, c'est, Raphaël Nemo, pour l'African Leadership, alors pour les jeunes qui participent à l'académie, certains payent, d'autres pas, à Johannesburg, à l'île Maurice.
Exactement, en fait, on considère que tout le monde peut avoir un potentiel de leader en soi, quelle que soit la provenance sociale. Donc en fait, on encourage tous les jeunes à candidater, on fait un processus de sélection sans regarder qui a la capacité de payer les frais de scolarité ou pas, et ensuite un comité se réunit pour voir comment est-ce qu'on aide chaque jeune. Mais sinon, effectivement, la formation a un coût, c'est normalement 30 000 $ à l'année, mais 95% de nos élèves sont boursiers.
Voilà. Par contre, sur l'aspect universitaire, là, on est bien sur université privée. Hein,
on est sur université privée, 7 000 $.
Ouais, vous avez des célébrités déjà qui sont passées par l'African Leadership Academy ou pas? Vous rêveriez d'avoir un président africain qui serait passé par là?
Oui, alors on rêverait d'avoir un président africain. On rêve surtout d'avoir des entrepreneurs, en fait. On rêve d'avoir des jeunes qui créent des emplois et de la richesse en Afrique, et on en a déjà. Je peux vous citer peut-être quelques exemples, mais...
On n'aura pas le temps, mais on va peut-être évidemment mettre le lien sur notre page de 7 milliards de voisins. Marie-Éloi, je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'école Montessori à l'Armor Baden, et on peut aussi vous retrouver sur le site Femmes de Bretagne. Là aussi, c'est du leadership. Peter Gamble, vous publiez « Ces écoles, pas comme les autres, à la rencontre des dissidents de l'éducation » aux éditions Vuibert. Et donc, Raphaël Nemo, c'est le groupe African Leadership qui est basé à Johannesburg, à l'île Maurice, et puis nouveau campus bientôt au Rwanda et au Kenya. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Néran, Mathieu Salabert et Didier Cherouz. Lundi, 7 milliards de voisins, retour en direct pour une nouvelle émission. À lundi, les voisins et les voisines.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.
Autour de la question.